Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de décembre 2023? Aujourd'hui, on va parler de la suite de la faille Docta dont on a parlé le mois dernier. On va parler des nouveautés chez nos chers cloud providers, des tendances vues par la CNCF et on finit par Cube. Tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti !
Bienvenue à toi, cher compagnon dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et oui, nous sommes en décembre, c'est bientôt Noël, c'est une période chargée pour tout le monde et c'est pour ça que tu n'auras qu'un seul épisode de podcast ce mois-ci. J'en suis désolé. Mais comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va finir par découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi ce soir, pour parler actu, j'ai Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir ou bonjour à toutes et tous.
J'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Et enfin René.
Bonsoir à toutes et tous.
Je te rappelle, parce que je ne le fais pas assez souvent, que chacun d'entre nous a un épisode de podcast qui lui est dédié pour apprendre à nous connaître, apprendre à connaître les podcasteurs et podcasteuses. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, mais souvent dans la description, il y a le lien vers l'épisode de podcast. Alors, on commence par la traditionnelle section des courriers des auditrices et auditeurs, et je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui la communauté Apple Podcast qui se mobilise très fortement pour laisser des messages un peu de partout. Ça fait plaisir, continuez, allez-y, inondez de messages Apple Podcast. À ce sujet-là, tout à l'heure, au moment où j'enregistre cette émission, on est le 7 décembre, et ben justement, j'ai vu qu'on était à la 17e position dans le chart Apple Podcast de la France pour la technologie, donc dans la catégorie technologie. En tout cas, merci à toutes et tous pour vos écoutes. Et du coup, j'aimerais vous lire quelques messages qui viennent justement d'Apple Podcast. J'en ai sélectionné 4 parce que il y en a tellement que du coup, je vais essayer de faire vite, mais ils ont un peu tous la même idée. Alors, on a déjà Jules Breuse. Je sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça, qui vient d'Apple Podcast Canada. Et c'est le premier commentaire, d'ailleurs c'est son titre, premier commentaire, il nous a laissé 5 étoiles. Ceci est le premier commentaire du podcast sur Apple Podcast, emoji fête, ça tombe bien, c'est Noël. Bref, bonne continuation, je suis développeur avec une casquette Ops qui aime beaucoup le contenu du podcast avec un emoji cœur avec les mains. Un autre message de Slimbok 6 sur Apple Podcast et il nous dit le podcast du mouvement DevOps avec 5 étoiles. Ça fait un moment que Christophe demande des commentaires dans podcast d'Apple. Eh bien, j'emmène ma petite contribution pour tous les poditeurs à la recherche d'une écoute de qualité sur le mouvement DevOps. Et en français, s'il vous plaît, c'est le podcast à écouter. Christophe et ses compagnons et ses accompagnants, excusez-moi, font un travail remarquable. Et pour couronner le tout, ils maîtrisent totalement leur sujet, chacun avec leur expertise et leur expérience. Un must-have, merci à vous et bonne continuation. Floflo06800 nous dit un très bon podcast avec 5 étoiles. Pour ceux évoluant dans le métier, ce podcast est un bonheur à suivre. Pour se tenir un peu informé, quand on a une vie perso un peu trop remplie d'obligations familiales. Je l'écoute le matin sur la route avec un pouce en l'air. Et enfin, Smolin Damix, merci pour vos pseudos, vous êtes formidables tous, et toutes d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des femmes. Alors, son message, c'est pas le mot de la fin, avec 5 étoiles. Super podcast, sujet toujours très intéressant et abordé de manière compréhensible par tous. On adorerait plus d'épisodes. Bravo à l'équipe et longue vie aux ingénieurs DevOps avec un clin d'œil et une langue qui se tire. J'imagine, je comprends pas pourquoi. Bref. Donc, bah, merci à toutes et tous pour votre soutien et vos commentaires élogieux. Je voulais les lire à l'équipe. J'en profite parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur le travail qu'on fait. Justement, j'en profite et je voudrais remercier profondément mes co-animatrices et animateurs qui sont là depuis maintenant plus de 3 ans, de se rendre disponibles et bénévolement pour chaque préparation et enregistrement d'épisodes de podcast, parce que ça demande quand même un petit travail, mine de rien, y compris de leur côté, et c'est un temps précieux qu'ils nous donnent. Pour répondre un peu plus profondément à Smolin Damix au sujet du fait qu'il aimerait avoir plus d'épisodes, j'aimerais aussi beaucoup produire plus d'épisodes, mais malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut pour ça arriver à monétiser le contenu pour pouvoir payer des salaires, en l'occurrence le mien, pour que je puisse en vivre et au moins y consacrer à un mi-temps. Mais pour l'instant, c'est pas facile et je ne peux plus déléguer. Donc du coup, c'est pour ça que je réduis un peu la fréquence des podcasts en attendant de trouver un équilibre économique sur cette activité. Donc j'ai remarqué aussi que les dons, ça fonctionnait pas vraiment. Donc je réfléchis à des formules alternatives, comme par exemple un podcast par abonnement en plus de ce flux-là. C'est-à-dire que j'imagine un flux avec le flux sans pub déjà, et surtout des épisodes de podcast solo en supplément. Donc du coup, au moment où sort cet épisode, j'ai lancé un sondage sur Twitter et sur LinkedIn. Si tu nous écoutes et que tu veux participer à ce sondage, tu peux y aller. Les liens sont dans la description. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes chers co-animateurs pour répondre à ces commentaires.
Bah déjà, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est vrai que c'est encourageant, on va dire, plus que ne pas avoir de commentaires et avoir un peu l'impression de parler dans le vide. Donc c'est top si ça peut aider. Et j'espère que ça va encore continuer longtemps et que tu vas trouver un équilibre pour toi aussi, hein, parce que c'est du boulot de tous les côtés. Mais tant que c'est pas fait pour rien, je pense que c'est essentiel. Donc n'hésitez pas à poster encore plus de commentaires, créer des pseudos de plus en plus compliqués. N'hésitez surtout pas à mettre des pseudos de 64 caractères, à faire des PWGN 64 dans votre pseudo. Franchement, je pense que Christophe sera le plus heureux quand il lira le courrier des lecteurs.
C'est pas sympa ce que tu fais, je pourrais peut-être te les laisser lire la prochaine fois. Erwan?
Non, bah c'est cool comme retour. J'imagine que ça veut aussi dire que on s'améliore avec le temps et qu'on est un peu plus à l'aise au micro, que les sujets intéressent toujours les gens et tout. Donc j'espère qu'on va dans la bonne direction. Et la culture du feedback fait partie de la culture DevOps, donc on prend vos messages avec attention.
Bon, alors j'ai rien à ajouter, tout a été dit.
Écoute, tu peux prendre les éloges aussi. Justement, hier j'ai fait mon traditionnel live de news et de statistiques sur la chaîne YouTube, parce que si tu ne le sais pas, ce podcast est aussi diffusé sur YouTube, et sur la chaîne YouTube il y a des lives de temps en temps, et je parle souvent de la communauté, au moins tous les 2 mois, et je présentais les stats de YouTube, et aussi sur la partie YouTube, la chaîne se porte bien et a repris du poil de la bête. Donc je pense que tu as raison, Erwan. Soit on s'améliore, soit il y a un truc, en tout cas, on arrive plus à capter l'attention et les gens sont de plus en plus présents. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, moi je vous remercie à nouveau tous. Tu l'as compris, si tu nous écoutes, tu peux laisser un message, soit sur Apple Podcasts, mais je suis sûr qu'il y a la communauté Podcast Addict qui va se prendre en main et laisser des messages, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, c'est mon application de podcast, Podcast Addict. Tu peux aller aussi sur Deezer ou sur YouTube, laisser des commentaires, il y en a beaucoup sur YouTube. J'en sélectionnerai sur YouTube la prochaine fois, justement. Et puis, sinon, tu peux aussi aller sur le forum des compagnons, puisque chaque épisode de podcast a son propre message. J'en profite, puisqu'on parle des messages et de YouTube. J'ai remarqué un truc, on m'a remonté plusieurs fois qu'il y avait des problèmes de messages qui disparaissaient. Et en fait, on a, on a trouvé la solution, enfin, on a trouvé la raison. C'est un des spectateurs qui a trouvé la raison. C'est quand on laisse une URL, un lien, en fait, le commentaire disparaît. J'ai remonté ça à YouTube. Pour l'instant, ils m'ont dit que ça faisait plusieurs personnes qui leur remontaient le sujet. J'ai fait moi-même le test avec un de mes comptes et j'ai posté un message sur une de mes vidéos avec une URL qui pointe vers justement notre site internet, les compagnons du DevOps, et le message a disparu en l'espace de quelques secondes. Donc, tu ne peux pas malheureusement laisser de commentaires aux vidéos avec des URL. J'en suis désolé, mais c'est pas moi qui les supprime. Donc, si tu veux laisser des commentaires avec des URL, bah, le mieux, c'est d'aller sur le forum des compagnons et là, tu pourras discuter. De toute façon, chaque vidéo, il n'y a pas que les podcasts, mais chaque vidéo a un commentaire. Ceci étant dit, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé le mois dernier. Erwan, tu vas nous parler de la suite de la faille d'Okta.
Ouais. Donc on va reparler de data breach, on va parler de multi-factor authentication, de communication et de suivi d'incident. Tout ça dans cette news. Alors déjà pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'Okta ? Okta, c'est un SaaS de gestion d'identité et d'accès. Et globalement, c'est un des leaders du marché. Et forcément, quand on est sur ce cœur de métier, ben on est la cible d'attaques diverses et variées, encore plus que pour les autres SaaS. Donc il y a quelques temps, donc c'était fin septembre, si mes souvenirs sont bons, Okta faisait une communication pour avertir qu'il y avait une faille qui avait pu être exploitée. Et en fait, la faille, elle est assez basique. C'est juste les identifiants d'un membre du support qui ont été volés et qui ont permis l'attaquant de se loguer et de récupérer des données. Et dans les données que les attaquants ont récupérées, ils ont récupéré les fameuses archives HTTP. Alors je sais jamais trop comment on prononce ça, HAR. Vous avez la ref. Et donc dans ces fameux fichiers HAR, donc ces archives, c'est des archives qui sont assez pratiques parce que en fait elles sont c'est des fichiers qui sont souvent utilisés pour échanger avec les supports, justement pour débugger, pour reproduire des actions d'utilisateurs, etc. Sauf que quand on fait pas forcément attention, quand c'est pas bien cleané, etc. En fait dans ces archives on peut y retrouver des informations sensibles comme des tokens d'authentification. Et en fait les attaquants ont su extraire de ça des tokens d'un des clients de Okta. Et donc du coup, ce token étant valide, ils ont essayé de se loguer et le token était valide. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le token étant valide, l'entreprise qui était associée à ce compte, donc c'est Beyond Trust, qui est d'ailleurs une entreprise qui fait de la sécu, en fait elle a reçu une notification et elle avait activé le multi-factor authentication, donc c'est-à-dire que en plus de votre login mot de passe, vous devez avoir un outil tiers, donc ça peut être une application, un hardware ou autre pour valider votre identité. Et ben en fait le compte associé a eu une notification sur son mail disant que quelqu'un essayait de se connecter avec une IP qui venait de Malaisie. Donc comme la boîte en question était en train d'échanger avec les équipes d'Okta autour d'un problème et qu'ils avaient envoyé justement la fameuse archive HR, ils ont rapidement fait le lien entre ce mail qu'ils ont reçu et leur action avec le support. Et donc ils ont contacté tout de suite Okta en disant attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur votre support, enfin il y a peut-être un souci parce qu'il y a en gros des gens qui ont essayé de se loguer avec des informations avec des informations qu'ils ont réussi à extraire de on sait pas. Okta, suite à ça, ils ont réussi à tirer le fil et à identifier quels étaient les ID du support qui avaient été chopés. Et donc tout de suite ils les ont révoqués. Ils ont fait une petite communication pour dire vous inquiétez pas, très peu de clients sont impactés parce que, en fait, les personnes du support n'ont accès qu'aux données liées aux clients auxquels ils sont, avec lesquels ils sont en contact. Et donc, du coup, il disait, c'est une infime partie de nos clients, il y a pas de souci, les accès ont été révoqués. N'oubliez pas d'activer le MFA, parce qu'effectivement, là, si la boîte en question n'avait pas activé ça, bah, l'attaquant aurait su se loguer sur leur console. Et donc, on pensait l'histoire finie, parce que finalement, bon, bah, c'est yet another leak perte d'accès, enfin, d'identifiant qui a été récupéré. Mais en fait, là, fin novembre, on a appris que, c'était pas que ça. Que pour une raison un petit peu obscure, mais en tout cas avec le compte du support qui a été chopé, l'attaquant a pu récupérer l'intégralité des noms et des mails de tous les utilisateurs qui ont contacté le support d'Okta à un moment dans leur vie. Donc là, on commence à se dire, ok, ça commence à être un petit peu plus chaud, puisque ça fait quand même une sacrée base. Et puis en plus, il s'avère que pour certains utilisateurs, alors Okta a communiqué sur le fait que c'était quand même inférieur à 1%, mais bon, quand même. Il y a des informations un peu plus en plus, comme les adresses, le téléphone, etc. Et donc, pourquoi on en parle maintenant et pourquoi c'est intéressant d'un point de vue, on va dire, ops, mais plus sécurité en général, c'est que déjà Okta, qui avait fait une première communication un petit peu en grande pompe pour dire voilà, en fait le problème il a été vite réglé, machin, merci à notre client et tout. En fait là, ils ont refait une communication qui est quand même bien plus discrète pour expliquer que la faille elle est bien plus grosse que prévu, mais naïvement on pourrait dire ah oui mais c'est que des noms, des mails, éventuellement des téléphones et des adresses. Tout ça a de la valeur. C'est ce qui permet aussi, et c'est surtout là-dessus que la communication d'Okta a été faite, d'expliquer que attention, le phishing provenant de gens pouvant se faire passer pour Okta, etc., il est pas, le risque est pas si anodin que ça. Et donc du coup, on comprend tout de suite l'ampleur des dégâts et l'aspect vraiment critique de ce genre de service. Et on en a déjà pas mal parlé avec pas le même type, mais en gros les histoires un petit peu similaires qui est arrivé notamment chez LastPass. Il y a dans ce podcast, dans des précédents épisodes. Alors forcément, en ayant communiqué comme ça, et puis surtout en ayant une communication qui est beaucoup moins flamboyante et on va dire ouverte que celle du début qui disait que tout était confiné et qu'il n'y avait pas de soucis, ils se prennent une vague, pas d'insultes, mais une vague de messages assez critiques sur leur gestion de l'incident. Donc je vous laisse regarder sur Twitter les messages, hein, c'est pas hyper funky. Mais alors du coup, moi, quand je lis ça, je me dis ok, il y a plusieurs choses qu'on, donc maintenant on sait vraiment ce qui s'est passé, comment les personnes ont pu, enfin comment Okta a découvert le problème, comment tout le fil a été tiré, et il y a plusieurs petites choses que je retiens. Alors ça peut paraître bête, mais des fois on n'a pas le choix, on a des comptes partagés, même si c'est pas une bonne pratique, mais ça peut arriver. Et donc, ça arrive de recevoir des mails de nouvelles connexions depuis quelque part. Eh ben, quand vous êtes dans une équipe et que vous partagez des comptes, je pense que le premier truc à faire, c'est il faut prêter attention à ce genre de message, même si ça peut paraître anodin. L'acquitter, dire c'est moi qui suis derrière ou quoi que ce soit, ça permet d'éviter, se dire attention, il y a un souci ou pas. Là, c'est clairement le truc qui a trigger l'alerte chez Beyond Trust. On en a déjà parlé aussi dans les précédents épisodes, mais le multi-factor authentication, c'est pas une option aujourd'hui. Et en tant que DevOps, on a des accès souvent très avancés à des consoles d'admin, à des outils de gestion un petit peu pointus, etc. Et donc en fait aujourd'hui vraiment il y a aucune excuse à ne pas utiliser, alors, je sais pas, il y a Yaoti, il y a Google Authenticator, ou encore mieux, je l'ai ici, la YubiKey. Il y a plein de choses. Enfin, c'est des solutions qui sont fiables et pratiques, téléphone, application, etc. Et il y a pas de souci. Et puis, il y a des choses que moi, j'ai rarement vu ça mis en place. J'ai rarement vu ça mis en place, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de. Enfin, je pense à, par exemple, à OVH ou Scaleway ou même à AWS, ils proposent des trucs comme ça de limiter certains accès, même par IP. Bon, bah, c'est pour des accès vraiment importants, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et puis, bah, je finirai par encore une fois, quand il y a des leaks, quand il y a des exploits, etc. La communication des boîtes impactées, elle est hyper importante. Là, on passe d'un truc qui, en tout cas, a été communiqué au début comme quelque chose de « oui, c'est un problème, mais c'est anodin », à quelque chose de « attention, le phishing peut être sérieux ». Maintenant qu'on a dit tout ça et que l'action d'Okta a chuté en bourse, Damir, que penses-tu de cette histoire ?
Oula, beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec toi, il y a des bonnes pratiques à mettre en place et typiquement, les comptes importants, on ne doit pas s'y connecter. Je prends un exemple très simple, votre compte route AWS, à part changer la carte bleue, il y a zéro raison de s'y connecter. Donc le compte, il doit être monitoré. Si jamais il y a quelqu'un qui s'y connecte, il doit avoir une alerte, limite sur l'astreinte. Et au-delà de ça, l'accès doit être vraiment, vraiment blindé. Donc après, bah, limitez ça, partagez pas de compte. Mais bon, tout ça, je pense qu'on l'a déjà dit des centaines de fois dans le podcast, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Je reviendrai sur la partie com. La partie com, dans les cas-là, dans la gestion de crise, c'est un exercice qui est compliqué. Là, c'est une grosse boîte, donc ils ont les ressources, mais encore plus quand vous êtes dans une petite entreprise. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que vous devez trouver un équilibre entre la transparence et aussi pas trop descendre votre boîte, parce que vous pouvez potentiellement couler la boîte. Et même si on a fait une connerie, donc on mérite de couler, bah, avoir des millions de gens, des centaines de gens qui se retrouvent au chômage, c'est pas cool dans tous les cas. Et dernièrement, il faut aussi communiquer rapidement. Parce que si vous avez un incident de sécurité, vous communiquez 3 semaines après, c'est peut-être trop tard dans beaucoup de cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et pour ça, en fait, il faut vraiment être organisé, il faut vraiment avoir des gens qui communiquent de manière transparente dans l'entreprise, qui sont prêts aussi à prendre des décisions. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, et qu'il faut trancher, en fait. Il faut que les décideurs soient prêts à trancher. Et pour le coup, le dernier truc, je vais prendre un exemple perso de 2 minutes, être transparent en interne aussi. Pour la petite anecdote, dans mon premier stage, c'était la première fois que j'étais en entreprise, ça devait être le 2e ou 3e jour, je venais d'arriver. J'arrivais tôt le matin avant tout le monde, j'étais le premier dans l'open space, et je me suis fait avoir par un phishing. C'était pas un phishing de test, c'était un vrai phishing, je me suis fait niquer mon compte Google. J'ai eu le bon réflexe, j'ai changé le mot de passe direct dès que j'ai compris que c'était un phishing, donc c'est-à-dire même pas une minute après, donc l'attaquant n'a vraiment pas eu beaucoup d'infos, n'a pas eu vraiment le vecteur d'attaque qu'il aurait pu avoir. À cette époque-là, je me sentais un peu honteux, tu viens arriver dans l'entreprise et tout, t'as pas envie de dire « je me suis fait niquer par le phishing ». J'ai pris sur moi, je l'ai quand même fait, j'ai dit « bah désolé, je me suis fait niquer par le phishing, j'ai changé mon mot de passe, j'ai changé j'avais pas changé mon MFA, j'ai vérifié mon MFA, etc. » J'ai dit, j'ai regardé les logs de connexion, j'ai dit « j'ai pas vu de bêtises, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» J'ai demandé à la personne de la sécurité. On a vu ensemble, etc. pour vérifier que tout était OK. Il a eu un peu de jugement au début, mais c'était plus du troll par rapport au fait que j'étais stagiaire. Mais il m'a quand même aidé. Et j'ai envie de dire, des deux côtés, soyez transparent quand vous faites une erreur, ça arrive. Si jamais vous communiquez pas dessus, vous essayez de la cacher, ça peut être bien pire. Et au-delà de ça, dans le sens inverse, si un utilisateur vient vous voir pour vous dire « je me suis fait avoir pour un phishing » et de ça, on s'en fout de juger la personne, de troll, etc. Franchement, c'est le dernier des soucis. Le premier de vos soucis, c'est de limiter l'impact et éviter que la boîte subisse une attaque au travers de ça. Donc, ne jugez pas les personnes là-dessus. Essayez juste de comprendre et d'aider. Et ça va être important pour la communication interne, que les gens puissent communiquer en transparence là-dessus. La peur du jugement, c'est important dans ces cas-là. Et je pense que ça peut être un gros facteur de frein sur la compréhension globale de l'attaque. Parce que comprendre une attaque globalement, jusqu'où est allée, quels sont les accès qu'elle a eu, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, et encore plus si on met des petits ralentisseurs dans ce type-là. Donc ça, voilà, c'était pour ma digression. Moi, globalement, j'ai pas envie d'ajouter beaucoup trop d'autres choses, que j'ai l'impression qu'on va pas mal se répéter. Bah, cette partie com me paraît assez importante. Et du coup, toi, Christophe, t'en penses quoi? Les choses qui t'ont choqué?
Choqué, non, je sais pas encore. Je te remercie déjà pour la partie com, parce qu'on en avait déjà parlé, la transparence, la dernière fois, et c'est bien ce que t'apportes. Moi, je voudrais réagir à un truc qu'a dit Arwan sur les comptes partagés et que t'as aussi dit. Moi, je vais apporter un éclairage, vu petite entreprise, très petite entreprise même. Quand on n'est pas très nombreux, parfois, en effet, on va partager des comptes parce que juste on n'a pas les moyens d'acheter plusieurs comptes. C'est pas forcément interdit d'avoir un compte partagé. Et dans ce cas-là, la bonne pratique, et celle qu'on applique nous, en tout cas, on estime que c'est une bonne pratique, à vous de voir, hein, c'est d'avoir une adresse email partagée, c'est-à-dire qui est lue par plusieurs personnes. Et nous, on a un outil de gestion d'email partagé qui s'appelle Zamad, qui est un outil libre. C'est un outil de ticketing, en fait. Et toutes nos boîtes mail partagées arrivent là. Ce qui fait que quand on a un mail de ce type-là, et ça arrive souvent parce que, notamment quand quelqu'un se connecte à la console de facturation des comptes cloud, on reçoit un mail. Ah, vous avez reçu un mail et tout. Et donc, la politique, c'est la personne qui a fait ça doit fermer le ticket pour dire que c'est elle. Et si le ticket il est pas fermé dans la journée, c'est qu'il y a un vrai problème, en effet. Et je voulais aussi réagir sur la double authentification ou la multi-authentification. C'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment faut le faire. Quand c'est disponible, il faut le faire. Moi, je passe à chaque fois, y compris chez des clients, je leur demande de le faire parce que j'ai des clients qui nous partagent des accès sur leur compte Scaleway, OVH, etc. Et parfois, ils le font pas parce qu'ils ont pas la connaissance. Je leur dis, attention, faut le faire. C'est important pour la sécurité de votre compte. Activez la double authentification. Et toutes les personnes avec qui je travaille, je leur demande d'activer la double authentification. C'est hyper important. Faut vraiment pas s'en passer parce que même si c'est un peu pénible, puisque moi, l'application sur smartphone et j'ai aussi ma YubiKey mais je l'ai pas encore bien configuré de partout, mais c'est essentiel parce que si on se fait voler notre mot de passe, comme vient de le dire Damir, ça peut arriver, on peut être inattentif, enfin bref, ou alors on a une attaque brute force. La double authentification, elle est là pour protéger, en plus c'est un fil de sécurité. Donc voilà, je vais pas réagir plus que ça, je vais passer la parole à René.
En fait, si je me rappelle bien, on en a parlé la semaine, le mois dernier, pardon, avec Nicolas, et on était assez, on avait trouvé que la première communication était plutôt transparente et pas mal. Après, effectivement, c'est dommage qu'ils aient pas continué. Enfin, voilà, si la deuxième communication a été un peu pas du même acabit, c'est un peu dommage parce que après, c'est sûr que c'est pas évident parce que ça veut dire que quelque part la première analyse avait pas été bonne, il y avait plus que ce qu'ils pensaient. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué à communiquer, mais bon, voilà. Je pense que même dans ces cas-là, c'est mieux pour les clients de rester transparent. Effectivement, pour l'image, c'est pas dingue, mais voilà, j'ai pas forcément plus à dire.
Je rebondis sur un dernier point qui est intéressant. Et qui, moi, j'en ai un peu ma claque, que Christophe m'y a fait penser. Pitié des éditeurs, arrêtez avec ces modèles de facturation à l'utilisateur. Ça favorise juste des comportements de mutualisation de comptes ou des comportements de ce type-là. Et ça fout juste plus la merde qu'autre chose. Franchement, ce modèle, pour moi, il est mauvais. Tout ce que j'ai vu de ce modèle-là, c'est effectivement des gens qui vont dire, du coup, on mutualise les comptes pour éviter de payer des X accès. C'est vraiment un problème. Faut trouver. Je pense que c'est pas viable. Ça pousse pas les entreprises à investir, surtout avec d'autres problèmes dont on a déjà parlé, de confiance envers les solutions SaaS, etc. Au niveau du pricing. Mais je pense qu'il est vraiment important de trouver un autre modèle et aussi en parlant de sécurité, d'arrêter de mettre les features type SSO, etc., les features de sécurité dans les abonnements les plus chers que les petites et moyennes entreprises peuvent pas atteindre, ou trouver un modèle de facturation qui permette à des petites entreprises de 5-10 personnes de se payer les choses-là sans pour autant, et vous financer, sans pour autant, qui se sentent un peu égorgés, entre guillemets.
Eh ben merci pour ça. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur le modèle de facturation SaaS, ça pourrait être un sujet intéressant, peut-être pour un live YouTube, je ne sais pas. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu l'aimes, que tu l'apprécies, si tu penses qu'on t'apporte des trucs, tu peux nous soutenir. Alors, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, tu peux le partager, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux nous laisser des commentaires, comme je disais, mais tu peux aussi nous faire un petit don. Ce petit don, il nous aidera à payer les outils qu'on utilise. Là, notamment, l'outil qu'on utilise pour enregistrer le podcast, dont j'en ai parlé sur YouTube, c'est Riverside. Il a un coût, l'hébergement du podcast. Bref, on a plein de petits coûts annexes. Donc, si tu veux nous faire un don sur Liberapay, tu peux. En plus, Liberapay, c'est une plateforme libre qui est géré par une association française. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là. Tu trouveras le lien en description. René, tu vas nous parler des tendances vues par la CNCF, je crois.
Oui, alors je te vole un peu la vedette là, parce que d'habitude, c'est toi qui nous parles beaucoup des rapports et des différentes évolutions, mais... je m'y colle cette fois. Donc, en octobre est sorti un rapport de la CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation, et donc le lien sera dans les notes du podcast, mais vous pouvez trouver ça assez facilement sur le net. Et ce qui est pas mal, c'est que ils ont analysé en fait c'est basé sur le nombre de PR et d'issues sur les différents projets open source. Et donc ils ont fait des statistiques et ils ont classé un petit peu les projets qui sont CNCF, donc vraiment orientés Cube et compagnie, et les projets de la Linux Foundation dont ils font partie, et les projets open source en général. Et donc je pense que c'est bien fait, il y a des graphiques, on peut zoomer sur les graphiques, il y a des données brutes, etc. Et je pense que ça donne une bonne idée un petit peu des projets qui sont les plus vivants, et donc un petit peu des tendances peut-être à suivre, parce que quand on voit le nombre d'outils hébergés par la CNCF, c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc là, ça permet un petit peu de voir quels sont, je pense que c'est plus ou moins corrélé, les plus populaires, mais aussi, voilà, les projets qui bougent le plus. Donc on peut imaginer là où il y a le plus de contributeurs et d'utilisateurs. Donc voir un petit peu, quelles solutions se détachent. Donc voilà, là juste pour exemple, pour la CNCF, forcément le premier projet c'est Kubernetes. Après en OpenTelemetry qui est une grosse bulle. Après on parle de Argo, Backstage qui est un, si je dis pas de bêtises, quelque chose qui est fait par Shopify pour faire des portails de services, et Prometheus, voilà, juste pour donner les cinq premiers. Donc je vous encourage à regarder en fait ce document, et puis je pense que c'est assez bien pour connaître des nouveaux outils, des nouvelles solutions, et voir celles qui ont l'air de se détacher, ou du moins où il y a le plus de mouvement. Voilà, est-ce que vous connaissiez ce rapport? Est-ce que vous pensez que c'est un bon indicateur? Erwan, je te laisse la main.
Alors moi, j'étais pas tombé dessus, et je trouve que c'est vachement intéressant. Et alors, c'est pas pour lancer un troll ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai jamais trop caché que j'aimais plutôt bien Jenkins malgré tous les défauts qu'il a, et voir qu'il est pas si mal classé que ça. Alors bon. Il est classé dans PR, il est bien classé dans le truc PR et issue. Donc on peut imaginer, ça se trouve, c'est que des issues de gens qui se plaignent que ça fait pas ce qui est attendu. Mais non, sans troller, en vrai, c'est bien, parce qu'on l'a répété plusieurs fois dans le podcast, que c'est important quand on choisit une solution de voir sa communauté, les contributeurs, à quel point sa vie et tout. Et ça, c'est clairement un moyen d'avoir un premier filtre et avoir une idée. Et c'est toujours du contenu hyper intéressant. Et puis en plus, c'est quand même vachement bien fait avec l'interactive map, là. Non, c'est du beau taf. Christophe?
Ouais, je me doutais que Kubernetes était en premier, mais alors je pensais pas que la distance entre le premier et le deuxième était si importante, parce que pour info, Kubernetes y a annoncé 3662 contributeurs, alors qu'OpenTelemetry qui est le deuxième, il y en a deux fois moins avec 1419 contributeurs. C'est assez impressionnant. Il y a plein de trucs. Du coup, en effet, c'est vachement bien pour trouver des nouveaux outils. J'ai notamment tendance à dire à mes collègues que quand on veut trouver une nouvelle solution, un nouvel outil ou une nouvelle collection en cible, enfin toute dépendance de n'importe quoi, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de contributeurs et si le projet il est maintenu. Et ce genre de rapport et de présentation et de données, c'est super intéressant et super important. Et là, on va pouvoir découvrir plein de trucs. Enfin, je veux dire, je pense que je vais être refait jusqu'à la fin de l'année avec ça. Je vais aller explorer. Merci, René.
Ouais, merci. C'est vrai que je t'ai passé à côté. C'est vrai qu'on voit toujours le landscape et c'est un peu dur de s'y repérer pour voir ce qui se détache au niveau contribution et utilisation. Et là, c'est intéressant d'avoir un peu un condensé pour donner une vision un peu globale, rapide. Je suis pas étonné que Kubernetes soit premier. C'est vraiment, je pense, un projet qui est en train d'avoir la bonne maturité, d'être utilisé par plus en plus de grosses entreprises et pour plein de besoins. Donc c'est cool de voir que ça continue d'évoluer, que c'est bien actif. OpenTelemetry me surprend à être si haut, mais c'est génial parce que la promesse d'OpenTelemetry est quand même vraiment top de faire globalement. Je vais essayer de simplifier, j'ai peut-être trop simplifié, mais au pire vous me corrigerez dans les commentaires. C'est de faire un APM mais qui soit totalement standardisé en fait, avec des sortes de métriques like, ce qui est vraiment cool et ce qui pourrait éviter aussi le vendor locking. Seul problème, c'est que c'est un peu plus dur à intégrer qu'un APM classique en général. Je suis un peu déçu de pas voir Flux et de voir Argo en troisième, mais bon, ça on va dire c'est mon petit troll. Pour Backstage, juste, c'est un portail de développeurs. Donc, c'est-à-dire que vous avez un portail d'entreprise où les développeurs vous recherchez, peuvent rechercher vos différents microservices, programmes, etc. et voir quelle équipe l'a développé, voir comment la contacter, voir l'état des déploiements. C'est vraiment un portail unifié qui va vous servir, en fait, à remonter tout ça. Et vous pouvez l'interconnecter avec plein de choses. C'est quelque chose qui est très bien, mais qui est, je trouve, assez lourd à mettre en place pour que ce soit intéressant. Il y a beaucoup de choses custom à faire, etc. Donc c'est bien si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens, c'est peut-être un peu overkill. Je suis content aussi de voir Cilium, hein, que j'apprécie, même si je galère encore des fois un peu avec, que je trouve vraiment c'est un super projet. Et pour le reste, c'est cool de voir aussi que d'autres choses vivent et sont un peu différents dans les divers scopes de la Linux Foundation, même si je vois que Kubernetes est dans le top à peu près partout, ce qui est assez marrant au final.
Ouais, si je peux juste ajouter un petit truc, ce qui moi m'a surpris en fait, c'est bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on dézoome, donc on remonte sur les projets open source. Ce qui m'a surpris, c'est NixOS en fait. On entend effectivement, on entend pas mal parler. Et mais voilà, le voir donc sur l'ensemble, sur les 30 projets open source, il arrive en 1, 2, 3, 4, 5e position. Et voilà, ça m'a surpris. Donc beaucoup d'activités sur NixOS, impressionnant.
C'est pas un billet par contre, ça, au niveau de NixOS. J'entends beaucoup parler, j'ai envie de le tester et tout, hein, j'ai pas de souci avec. Mais NixOS, de mémoire, c'est centraliser une grosse partie sur des repos Git, notamment pour les packages. Et du coup, ça crée beaucoup de contributions pour ajouter des packages, vu qu'il y a beaucoup de packages, en fait, tout simplement.
Ouais, oui, je pense qu'il y a effectivement peut-être un petit biais, parce que je pense que dès que quelqu'un crée un nouveau package pour un soft qui existe, voilà, ça va faire des commits, des PR, etc., j'imagine. Malgré tout, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se packagent et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc voilà, moi ça m'a. Voilà, c'est un projet qui est pas si vieux et ça m'a surpris, quoi.
Non, mais je suis d'accord. Mais je voulais juste dire que ouais, c'est. Je pense qu'on contribue plus facilement à du Linux au quotidien qu'à du Linux, quoi, en utilisant un OS.
Sachant que Linux est le premier projet quand même.
Oui, parce que il y a quand même beaucoup de ressources dessus qui sont là même en full time. Et heureusement, sinon on aurait des petits problèmes pour soutenir tout ça bénévolement.
Oui, et puis surtout, Linux, c'est un peu de partout dans le cloud, donc on a besoin, en effet, que ce soit robuste. Et je pense que c'est aussi pour ça que Kubernetes est aussi haut, parce que il a pris une place ces dernières années assez impressionnante. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Bref, c'était le moment name dropping du podcast. Si tu veux name dropper toi aussi, viens sur le forum de la communauté des compagnons. Tu peux t'inscrire sur le site, c'est compagnon-devops.fr, le lien il est en description, et tu pourras nous partager aussi tes avis sur justement le rapport de la CNCF.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et quelle transition toute trouvée pour parler de Claude, mon cher Damir, que d'abandonner la CNCF.
Oui, c'est vrai. On va du coup parler de cloud, cette fois-ci un peu au-delà des standards et de l'open source, et on va dire du tout réseau SNCF, de CNCF, j'y arriverai pas. On va parler du coup des annonces qu'il y a eu, parce que oui, il y a eu des annonces. La fin d'année, c'est l'heure de déballer les cadeaux un petit peu en avance. Et pour ça, on a eu deux globalement grosses conférences que j'ai suivies plus ou moins assidûment en fonction des urgences du moment et de mes debugs sur Cilium, mais bon, c'est une autre histoire. Globalement, il y a eu tout d'abord l'AWS Summit. Alors, je vais pas rentrer en détail de toutes les annonces, que l'AWS Summit, c'est typiquement de l'AWS dans le sens où il y a énormément de choses, des choses super et des choses qui sont très scopées. Il y a eu beaucoup d'annonces pour plein de produits qui sont géniaux. Je vais pas rentrer en détail. Moi, je vais vous prendre deux, trois trucs qui, moi, m'ont semblé intéressants, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'utilisation. Bien sûr, vous avez des liens dans la description pour voir un peu plus d'informations sur l'ensemble de ces annonces et voir ce qui vous intéresse. Il y a tout d'abord le S3 OneZone qui va sortir. Donc, du coup, ça va être un S3 qui va plus être redondé sur l'ensemble d'un AZ et qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour des questions de performance. Il y a aussi beaucoup de services autour de l'IA, notamment un système de prompt qui, pour l'instant, sera pas disponible en France. Mais en tout cas, sur les régions européennes en général. Mais un système de prompt à la ChatGPT, mais cette fois-ci scopé, orienté entreprise pour éviter les fuites de données, etc. Donc on voit que là-dessus, on commence à avoir des choses qui se retransmettent dans les différents produits qu'on va voir au quotidien. On a aussi une solution de client léger qui repose sur Fire TV, je crois, ou je ne sais plus quel est le nom de leur boîtier. Fire TV Cube, qui va permettre du coup de potentiellement être une alternative à tout ce qui est Citrix, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'ils réutilisent ça sur AWS. Et il y a eu pas mal d'autres news, il y en a eu aussi, j'ai vu des améliorations, j'ai plus le détail, sur l'IAM, l'utilisation des rôles sur les pods Kubernetes qui sont du coup run sur AWS, ce qui est quand même super intéressant et super pratique au quotidien pour assigner des droits directement à des petits pods. Et au-delà de l'AWS, il y a un acteur bien plus local qui a aussi fait pas mal d'annonces, c'est OVH, que j'ai un peu mieux suivi, j'avoue, ça tombe un peu mieux pour moi. Donc de leur côté, il y a eu aussi beaucoup d'annonces dans l'IA, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont pas mal insisté dessus, on sent que c'est vraiment un pendant qu'ils veulent pas perdre en fait, et ils veulent pas prendre autant de retard qu'ils ont pris dans le cloud public, si j'ose dire, au début. Ils ont, je pense, cette crainte-là. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas sur les choses qui sont un peu plus concrètes pour nous au quotidien, j'ai noté pas mal de choses. Donc déjà, OVH va multiplier les régions à la AWS, si j'ose dire. Donc c'est les régions avec 3 AZ, sachant que chaque AZ est un data center qui est séparé de l'autre data center par une dizaine au moins de kilomètres. On peut pas penser à ces annonces-là sans repenser à l'incident Strasbourg, sans penser au fait que typiquement toutes les régions grasses chez OVH sont dans un même méta data center. Donc se dire qu'ils ont, ils commencent à prendre conscience que ça c'est un réel problème pour leurs clients et que la clarté aussi des nommages des régions sur OVH est une horreur absolue à l'utilisation. Et du coup, ils veulent repousser ce modèle. Ils avaient annoncé Paris, ils ont annoncé qu'il y aura d'autres régions. Au-delà de ça, ils avaient racheté une boîte qui fait de l'edge computing et ils vont se lancer dans la construction de mini data centers. Donc ça va être des data centers beaucoup moins denses, beaucoup moins gros que les data centers actuels, mais leur but en gros c'est de faire des implémentations ultra localisées avec plus d'une centaine en fait d'ouvertures sur toute la Terre. Donc c'est super intéressant, notamment je pense au DomTom ou sur des d'autres îles ou dans des coins comme ça. Ça va être très intéressant pour mettre des de l'edge computing au plus près en fait des clients, mais aussi peut-être pourquoi pas pour leur CDN qui va pouvoir avoir vraiment beaucoup de points de présence. Donc ça, à voir comment ça va faire évoluer. C'est une annonce très commerciale, mais le futur pourra peut-être nous montrer de belles choses. Il y a aussi des nouveaux services, mais ça on a déjà globalement entendu parler sur le Verité Tech Trip. Il y a KMS qui arrive à la fin d'année, donc vous allez pouvoir chiffrer enfin vos instances, notamment avec des clés KMS, et ça c'est une chose qu'on attend depuis longtemps, du Rancher à service et du VPN sur les réseaux OVH nativement. Donc c'était quand même des choses assez sympas. Au-delà de ça, on a eu aussi des annonces sur le SecNum Cloud. Alors moi, chose qui me faisait un peu rire, un peu grincer des dents, c'est que SecNum Cloud, pour l'instant, chez OVH, globalement, si vous vouliez en faire, c'était réservé à leur offre VMware, donc quelque chose de très souverain comme solution hein, pour le coup. Et là, cette fois-ci, ils ont annoncé qu'ils allaient le globaliser à l'ensemble de leurs offres. Donc le bare metal devrait être sous SecNum Cloud en 2024 et toute la partie publique hein, entre 2024 et 2025. Donc à voir s'ils arrivent à tenir ces deadlines. Mais là, j'avoue que ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de législation au niveau SecNum Cloud. Donc globalement, moi, c'est tout ce que j'ai noté. Ça me paraît déjà pas mal. Il y a des choses qui vont être assez intéressantes à voir comment ça se retransmet dans la réalité. Je sais qu'OVH a souvent eu des promesses non tenues. D'un autre côté, ils ont quand même sorti l'IAM qu'ils avaient promis au Verité Tech Trip cette année. Donc c'est assez cool qu'ils arrivent à tenir cette promesse qui est quand même conséquente. Donc on va dire que j'ai bon espoir pour le reste, hein, vu que c'est un acteur que j'utilise quand même pas mal, même si je râle beaucoup après et que j'ai beaucoup de problèmes dessus, parce que je ne sais pas comment ils ont foutu ça et pourquoi ils ont eu certaines idées un peu farfelues. Et du coup, vous, est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que vous avez des annonces qui vous ont intéressé? Toi, du coup, René, est-ce que tu as suivi ou tu as eu des choses qui t'ont titillé?
Non, non, je n'ai pas suivi spécialement. Ça a l'air assez ambitieux, là, je parle pour OVH, ça a l'air ambitieux, ouais, ce qu'ils veulent faire, c'est cool. Et vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment là, cette idée d'avoir trois data centers, un peu comme les grands, ça, comme les grands acteurs. Ouais, ça, je trouve ça super. Donc, j'espère que ça va se concrétiser. Et ouais, ça sera un gros pas en avant, je pense. Erwan, si.
Mais alors moi j'avoue que j'avais pas trop suivi ces annonces là, donc merci pour le petit brief. Ce qui me paraît important, c'est l'histoire des data centers. Si, comme tu disais, ils sont souvent fait un peu taper dessus sur les doigts pour le fameux méga data center qui est en fait qui correspond à leurs différentes AZ qui est tout au même endroit quoi. Enfin, mais par contre, c'est ce que tu as expliqué là sur le déploiement de plus petits data centers, je sais pas trop comment on dit. Je trouve ça hyper ambitieux et tout, mais alors ça me paraît être une, enfin, pour avoir un peu travaillé sur ces sujets, c'est sacrément ambitieux et c'est pas facile quoi. Je sais pas s'ils ont donné des dates associées à ces différents projets ou en tout cas des projections, mais c'est pas facile à faire. Donc,
ils ont donné des, alors j'ai plus les dates en tête, mais j'avais écouté, ils avaient donné des dates assez short, c'est-à-dire ça sera pas dans 15 ans quoi. Donc en tout, ils en ont prévu 150 et c'est prévu sur... je viens de retrouver la date, sur 3 ans. Donc 150 sur 3 ans. J'avoue que beaucoup de choses me font peur. C'est un projet qui est ambitieux. S'il réussit, c'est cool. Il y aura sûrement plein de choses à en apprendre. Mais moi, globalement, ce qui me fait peur, c'est les interconnexions. Il faut trouver 150 points qui ont de bonnes interconnexions. La supply chain au niveau des serveurs, comment ils vont gérer la construction, parce qu'on sait qu'ils construisent leurs serveurs eux-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on a fini sur un truc très centralisé. Il va falloir les expédier, gérer les remplacements, gérer tout ça. il y a beaucoup de problématiques comme ça, et même au niveau de la taille, en fait, leur data center, est-ce qu'ils vont pas se remplir trop vite, ou est-ce qu'ils misent d'avoir tellement de data center qu'au final, si t'as un data center au coin de la rue, un autre derrière toi, bah, si un est rempli, tu vas sur l'autre. Il y a beaucoup de questions que je me pose comme ça, donc on va voir ce que ça donne, et je pense que je suivrai ça vraiment par curiosité plus que par besoin dans un premier temps.
Quelque part, ils veulent un peu concurrencer Cloudflare en faisant ça, et c'est vrai que ça, c'est ambitieux, effectivement.
Je sais pas, Cloudflare, leur vrai apport, c'est le soft maintenant, et l'intégration. Je pense plus que ça soit tant. Bon, on verra bien.
Moi, ces histoires de mini data center, ça m'intrigue pour avoir travaillé justement en data center. Alors, je sais pas ce qu'on entend par mini. Si tu es sur le podcast que tu me vois pas, j'ai fait des petites parenthèses avec mes doigts. Parce que ça peut être en effet soit des data centers de quelques dizaines ou centaines de machines, soit ça peut être carrément une salle complète, mais juste une salle. Moi, je me pose des questions justement sur la gestion, parce que dans les data centers, il y a des gens qui gèrent. On a visité un data center Scaleway justement, Damir et Erwan, il y a quelques années, et il y a souvent des gens qui gèrent. Je me pose des questions sur est-ce qu'il va y avoir des employés OVH un peu de partout, est-ce qu'ils vont faire appel à des techniciens tiers, parce que ça arrive, et moi je trouve que c'est une superbe idée d'avoir des data centers plus localisé, et comme tu le disais justement pour les dom-toms et autres, pour ces endroits-là où justement il y a très peu de data centers, ça peut être une solution, et parce qu'eux aussi ils ont des besoins cloud. Bref, je sais pas ce que ça va donner, j'ai hâte. J'ai aussi vu dans l'article que tu nous partages que ça y est, OVH fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Donc ça veut dire que vraiment maintenant la grande majorité de son chiffre d'affaires n'est plus fait localement. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent justement densifier tout ça. Mais je suis aussi inquiet que toi sur les interconnexions, hein, parce que plus t'as des data centers et plus va falloir en faire. En tout cas, 150 d'ici 3 ans, ça fait beaucoup.
Oui, il avait dit que le rythme était assez fou. On va voir après. Je pense que c'est aussi un défi pour eux. Hein. C'est un stress test de leur côté. C'est pour ça que je vais suivre le côté là par curiosité.
Eh ben suivons. Si toi aussi tu nous suis, tu peux partager le podcast sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce que j'ai à te dire, c'est que le podcast, comme tous les contenus que je crée, sont en licence libre. Ils sont en CC BY SA. Tu peux justement les utiliser. Tu peux en découper des bouts et tu peux les utiliser partout. Il suffit juste que tu nous cites, Radio DevOps ou les compagnons du DevOps en fonction de la plateforme que tu utilises. Et puis tu peux en plus nous le dire, nous dire que hey, coucou les gars et les filles, j'ai utilisé votre podcast, j'ai utilisé votre vidéo pour faire ça. Et ça nous fera à toutes et tous super plaisir. Et pour la dernière news, c'est moi qui m'y colle. Alors, on le sait, le DevOps a émergé à cause justement d'objectifs divergents entre les devs et les ops, entre l'innovation et la stabilité. Et aujourd'hui, je te propose de parler de Kubernetes. Oui. Encore. Et surtout, du sujet qui l'anime en ce moment, a-t-il besoin d'une LTS ? Alors, pour ceux qui suivent pas, LTS, ça veut dire long terme support. C'est en gros l'assurance d'avoir un support utilisateur de plusieurs années sur un produit informatique. Kubernetes, donc l'orchestrateur de conteneurs que tu connais certainement, suit actuellement un cycle de support dit N-2. Ça veut dire que les 3 dernières versions mineures reçoivent des correctifs, et les autres, que dalle. Avec une sortie toutes les 15 semaines environ, chaque version bénéficie d'un an de support à la louche. Alors, est-ce que c'est suffisant? Eh ben ça, c'est la question que se pose Matthew Dugan dans un article de blog. Je te mets le lien justement en description. Donc, ce cycle de vie là, est-ce que ce cycle de vie là correspond à la réalité des déploiements, surtout pour les grandes entreprises? Ça, c'est des questions qui se posent. Il se pose aussi les questions sur le rythme rapide des mises à jour et le volume des changements qui pose justement un défi aux entreprises. Et il parle même pas des coûts de ressources et en temps associé à la création de nouveaux agrégats pour faire les mises à jour, pour tout tester. Il prend justement l'exemple des fournisseurs de services cloud comme Azure et Google Cloud qui ont déjà étendu la fenêtre de support de leur version de Kubernetes. Azure supporte pendant 2 ans une version Kubernetes, tandis que Google Cloud, par exemple, a maintenu le support Kubernetes 1.24 pendant 584 jours. Il propose que Kubernetes adopte un canal LTS avec un cycle de vie de 2 ans, sans possibilité de mise à jour entre les versions. Ça veut dire que si tu es dans une version 1.24, tu pourras pas passer vers une version 1.25. Ça, pourquoi il propose ça? Parce que selon lui, ça va encourager la création régulière de nouveaux nœuds et le rafraîchissement de l'ensemble de la stack. En gros, tu vas acheter des anciennes versions et tu vas popper des nouvelles versions, des nouveaux serveurs avec des nouvelles versions. Donc cette approche, ça offrirait un point de stabilité tant pour la communauté des utilisateurs que pour les éditeurs tiers, puisqu'il y a plein de gens qui font du business autour de Kubernetes. Alors, on a parlé d'Amazon tout à l'heure, et il y a OVH aussi qui a une offre Kubernetes managée. Alors, d'un autre côté, certains estiment que la flexibilité est intrinsèquement liée à Kubernetes. Ils pensent que les mises à jour continues sont essentielles pour accompagner notre démarche DevOps. Pour eux, maintenir une stack à jour, c'est crucial, et les mises à jour fréquentes, ça simplifie le process. Et enfin, il y a une troisième voie qui prône l'amélioration du process de mise à jour de Kubernetes, hein, pour faciliter le saut entre les versions. Parce que, en effet, pour eux, LTS, ça signifie pas forcément absence de mise à jour, mais plutôt des mises à jour qui sont plus simples. En tout cas, ça fait débat, et ça fait fortement débat sur Y Combinator. Pareil, je te mets le lien en description. Tu verras, il y a beaucoup de discussions, surtout que l'article, il a que 2 ou 3 jours au moment où on enregistre cet épisode. Donc finalement, une des questions clés, c'est: est-ce que le projet Kubernetes, est-ce au projet Kubernetes de proposer une LTS, ou est-ce que c'est aux distributions tierces? Parce qu'on le sait, Kubernetes, il y a plein de distributions. Il y a certains utilisateurs justement qui suggèrent que ceux qui ont besoin d'une LTS se tournent vers une offre commerciale. Par exemple, il y a OpenStack qui propose une LTS. En conclusion, est-ce que Kubernetes doit continuer à être une, alors que Kubernetes continue à être une plateforme incontournable pour l'orchestration de ses conteneurs, le débat sur la nécessité d'une LTS est en train de s'ouvrir. Alors, une LTS, ça pourrait nous offrir une stabilité, n'est-ce pas, les gars? Tout en permettant une mise à jour régulière de l'infrastructure. C'est quoi votre avis là-dessus? Alors, je sais que Damir était très tatillon, alors je vais lui passer la parole tout de suite.
Moi, j'ai un avis un peu mitigé là-dessus. Je comprends bien l'intérêt d'une LTS et le point de vue derrière tout ça. Ce que je constate, c'est que le plus souvent, dans les faits, avoir une LTS, c'est surtout une excuse pour repousser la deadline au dernier moment et attendre le plus longtemps possible, et après se retrouver avec une masse de changements qui est énorme. Kubernetes, au-delà de l'histoire des nombres de mises à jour, etc., c'est un produit qui évolue quand même pas mal au niveau des API. Il y a beaucoup de chemins d'API qui changent. On a des changements assez conséquents. Là, je pense notamment aux changements qui arrivent petit à petit sur la partie des ingress, etc. C'est des choses qui sont importantes. Et si jamais on se retrouve à faire des LTS déjà, j'ai peur de l'effet du « Ah non, mais je mets pas à jour parce que de ma LTS à la nouvelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de changements. » Et au final, on se retrouve avec des trucs qui sont plus supportés. La deuxième chose que je vois, c'est que Kube, la manière dont il est prévu, et ça, j'en ai parlé dans un article dernièrement sur Kubernetes et mon vécu avec, Kubernetes est prévu pour globalement se comporter en mode cattle. Donc, c'est-à-dire que vos nodes, c'est pas censé être quelque chose auquel vous tenez comme la prunelle de vos yeux. La bonne pratique, ça reste quand même de pouvoir en ajouter, en supprimer, faire des rollouts. Faire des rollouts de ces nodes pour mettre à jour, ça se fait. C'est même la bonne pratique. Si vous êtes sur AWS, je vous encourage à utiliser des outils comme Carpenter qui vont automatiquement trash et recréer des nodes, qui vont faire des choses très propres et très cool là-dessus, et qui vont faire économiser du pognon. Donc ça, c'est de ce point de vue-là. Après, oui, il y a beaucoup de changements aussi au niveau, on va dire, au niveau des API, comme je disais. Donc, le faire les mises à jour régulièrement, ça demande du taf là-dessus. Oui, totalement. Mettre une LTS, comme je dis, ça va pas le supprimer, ça va juste le mettre en un point, et je trouve que c'est pire. C'est juste, je pense, c'est plus aux organisations, en fait, d'évoluer et d'apprendre, en fait, à gérer ça, à mieux gérer leur cycle de vie, à faire de la gestion continue là-dessus, à faire de la veille. Mais ça, c'est un coût humain qui, pour l'instant, est caché, parce que quand c'est trop compliqué, on met pas à jour. Après, la troisième fois, on va dire, et se dire, bah, si les entreprises ont vraiment des besoins, on va dire, de LTS pour des raisons X ou Y, j'ai peut-être des choses que je n'ai pas en tête. Hein. Pourquoi pas, sous forme de services payants ou supportés par les distributions, en tout cas. Ça me dérangerait un peu moins. Mais dans la logique, j'ai peur vraiment de soit que ça bride le développement, soit qu'on se retrouve avec des LDS qui sont tellement différentes que ça va juste tout casser. J'ai vraiment peur de ces effets-là, quoi. Ou au pire, que ça fasse comme Python, quoi. Qu'on se retrouve pendant 10 ans avec d'un côté une version 1 et une version 2 parce que c'est trop compliqué, il y a trop de différence entre les deux. Dans l'état de maturité actuel, je pense quand même que c'est une mauvaise idée que Kubernetes ait une LTS. Peut-être dans 5-10 ans, quand le produit sera entre guillemets, quand je dis mature, c'est les choses évolueront un peu plus lentement ou sont un peu plus découpées. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, le produit évolue encore beaucoup, ce qui est une très bonne chose. Il est dans un cycle de vie où il explose, il est de plus en plus utilisé. Et je pense que cette LTS serait contre-productive. Et je sais que les gens vont dire, notamment dans les commentaires, et je sais que certains dans les auditeurs y pensent, oui, mais tu te rends pas compte, on n'a pas tous les moyens de faire du rolling update des instances, etc. Ça reste un problème si vous ne pouvez pas mettre à jour vos outils, que ça soit Kubernetes, que ce soit autre chose. Il y a des LTS sur Debian, il y a des LTS sur Ubuntu, et j'en vois encore régulièrement qui ont des versions qui sont dépassées au niveau des mises à jour. Pourtant, les LTS sont assez longues, il y a le temps de tout rebuild, il n'y a pas spécialement d'excuses. Soit c'est un problème organisationnel, soit c'est un problème humain, soit c'est un problème de budget. Mais dans tous les cas, le vrai problème, il est là, et c'est pas une LTS qui corrige le problème de fond.
Quelqu'un d'autre veut prendre la suite ?
Moi, je veux bien rebondir sur ce que Damir a évoqué. Je comprends tous les arguments que Damir a mis en avant, mais c'est rigolo parce que, enfin, c'est cocasse parce que moi, c'est justement pour les globalement les mêmes arguments que je me dis, bah, c'est pas une si mauvaise idée d'avoir une LTS parce que justement, on sait que. Il y a toujours de l'inertie sur les mises à jour de système de façon générale et Cube c'est pas un simple système quoi. Donc on sait que les projets de mettre à jour ce type de plateforme bah, c'est toujours un peu complexe et donc je me disais peut-être un peu naïvement mais que la LTS à défaut de, et je suis d'accord que ça peut créer une résistance au changement, mais je me dis au moins tu garantis que les pages de sécu ils sont toujours là, etc., etc. Sur un temps qui est acté et ce temps qui est acté, eh ben on peut imaginer, alors encore une fois, ça prend avec des pincettes et tout, mais que c'est le temps nécessaire pour que en gros n'importe quelle boîte puisse préparer ses migrations justement. Et en tout cas le temps qui a été estimé pour faire ce type de migration. Et du coup je suis d'accord avec toi sur le fait de qu'on doit se poser la question, ah bah si mettre à jour ça c'est l'angoisse, il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'est pas hyper fort, c'est vrai, mais j'ai le sentiment que ça c'est le step de maturité le plus avancé. Moi je dirais déjà que toutes les infras, les personnes qui les managent seraient déjà ravies de avoir des trucs full idempotent qui se rebuild from scratch et déjà si tu peux avoir cette garantie là avec des versions qui sont certes figées mais si tu perds ton infra tu sais la reconstruire en lançant les bons trucs et tout bah t'es déjà content et donc je suis désolé je diverge un peu mais le step de passer à je mets à jour plus régulièrement il est quand même pas si évident que ça et mais tu l'as bien résumé c'est souvent un problème de plus de temps humain, d'organisation, de structure en fait. Mais du coup, justement, par les arguments que tu donnes, moi j'aurais plutôt tendance à me dire, bah en fait la LTS, ça permettra probablement de rassurer l'utilisation aussi de ce genre d'outils, parce que probablement pas dans les structures où nous sommes, mais dans des structures peut-être plus rigides. T'as Jean-Michel du comité sécu qui valide tout là, qui va dire ah bah s'il y a pas de LTS, on met pas ça en prod. Enfin j'en sais rien, mais je me dis que c'est, enfin je vois pas ça comme comme un vrai frein, comme tu le définis. Mais peut-être que je suis hyper naïf sur le sujet.
Moi, c'est vraiment un constat que je vois avec les distributions, notamment quand Ubuntu a augmenté la LTS et on se rappelle tous de Windows XP, hein, il est arrivé en fin de vie, tout le monde était habitué au truc, personne voulait migrer, ils ont fait que augmenter le support et on a fini avec un truc qui était, qui avait aucun sens, en fait. Et c'est un vrai souci. Après, je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas assez mature pour faire tout ça automatiquement. Et pour moi, c'est là qu'on arrive au point de, si t'as pas les ressources en interne, si t'as pas les compétences ou si t'es pas encore assez mature pour maintenir un Kubernetes, tu prends du manager. Soit tu mets les moyens pour le faire en interne, soit tu prends du manager. À un moment, c'est aussi le but du cloud, c'est de te dire, j'ai pas assez d'argent pour faire les choses tout en interne, j'ai pas assez d'argent pour m'implémenter un IAM, j'ai pas assez d'argent pour me faire, on va dire, ma gestion des VM proprement, etc. C'est le but du cloud, c'est de te permettre ça. Alors, ok, tu payes un peu plus cher, mais comparé au prix que tu devrais payer pour maintenir ton cube peut-être en interne alors que t'es que deux ou trois personnes, bah oui, c'est largement rentable.
René, tu veux réagir ?
Ouais, en fait, je réfléchis assez un petit peu et par rapport aux situations qu'on vit aussi sur OpenStack. Et effectivement, parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que t'as des clients qui dépendent d'applications third party. Donc, si tu gères tout entièrement tes applications, effectivement, tu peux peut-être beaucoup plus facilement faire des mises à jour, mais il y a quand même quelques cas où tu dépends d'applications third party qui sont certifiées sur certaines versions, certaines plateformes, et du coup c'est pas si simple pour certains gros acteurs, notamment telco, de mettre à jour. Il y a parfois des contraintes. Donc dans ce cas-là, ça peut être nécessaire d'avoir une LTS. Après, est-ce qu'elle doit être upstream? Effectivement, je pense pas, parce que comme on le voit pour on voit que Linux a réduit la période de sa LTS et finalement il n'y a peut-être pas tant de gens qui utilisent ça. Je pense pas que ce soit le rôle du projet upstream, mais ouais, effectivement, côté des distributions, oui, je pense que c'est une des plus-values qui peut, pour certains acteurs, être intéressante. Voilà.
Alors, tu as parlé de la mise à jour de l'agrégat. Alors, tu as parlé des nœuds. Moi, je me pose une question quand même. Qu'est-ce que tu fais des nœuds d'infrastructure qui hébergent ton OTCD et autres qui sont moins faciles à mettre à jour? Alors, en effet, les nœuds qui font tourner les applications, là, il n'y a pas de problème pour moi, mais c'est vrai que les nœuds cœur de l'infrastructure, ils sont moins faciles à mettre à jour, et c'est ça que soulève l'article, je pense. Et je fais partie des gens, en tout cas moi, qui font partie de la troisième voie, qui aimerait bien un process de mise à jour beaucoup plus facile avec des LTS, sans forcément ralentir le niveau de mise à jour. Parce que tu peux avoir en effet des gens qui veulent mettre à jour régulièrement leur Kubernetes et des gens qui veulent moins mettre à jour. Pas forcément parce qu'ils veulent pas mettre à jour l'infrastructure, ça peut être un cas, mais je pense aussi à l'autre cas. T'en as parlé, et je l'ai pas dit, mais l'article il en parle aussi. Il y a le fait qu'il y ait des breaking changes dans les API et dans les outils de Kubernetes. Et donc, si tu as une LTS, toi, en tant que développeur, tu as au moins l'assurance que tu as une vision sur 2 ans que tu vas pas devoir renouveler tes trucs tous les 3 mois ou toutes les années. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je comprends les deux points de vue. C'est pour ça que moi, je fais partie de cette voie-là qui prône une mise à jour facile et une LTS dans les deux cas. Et je te rejoins, hein, si on n'a pas les moyens humains de maintenir un Kubernetes, et c'est chaud à maintenir, faut prendre du manager. Parce que...
Ouais.
Ouais.
Ouais, non, je suis d'accord. Pour le control plane, ça dépend de la distribution que tu utilises, du coup. Et si c'est sur le cloud, typiquement, en général, t'as pas à le gérer. Mais dans tous les cas, oui, ça se fait. Oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Si je te rejoins sur le fait que si la douleur, elle est vraiment là-dessus, c'est qu'il faut bosser là-dessus, en fait. Faut bosser sur un système d'upgrade en rolling automatique ou autre chose, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, c'est important, pour le coup, que ça soit, moi, entre guillemets, que ça devienne plus une contrainte. Moi, je pense que c'est ça, le vrai problème. C'est, tu vois, là, quand tu remontes que ça, c'est un problème, pour moi, on doit pas dire, on va faire une LTS pour le faire moins souvent. On doit dire, on fixe ce problème, on fixe le cœur du problème. J'ai peur, en fait, que l'LTS ait cassé des choses sous le tapis. C'est comme l'histoire des API dépréciées. Je suis d'accord, ça va être, je pense, le plus gros problème au quotidien. Pour l'avoir le cas sur beaucoup de clusters, parce qu'on, dans ma boîte, du coup, à Waze, on gère des clusters pour des clients. On commence à en avoir pas mal. Oui, ça va être un chantier qui est assez gros. Après, il faut bien que, je pense que c'est une douleur, mais qui est pas forcément mauvaise, dans le sens où ça va forcer à suivre, en fait, ces applications. Et par de choses qui tournent un peu sur le tapis, sur le cluster cube, que personne ne sait à qui ça appartient, ça évolue pas et ça bouge plus. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de détecter les dépréciations d'API, etc. Moi, je trouve que ça serait bien, et c'est une bonne pratique pour moi, que moi, j'ai un repo Fluxidy dans lequel j'ai mes ressources en, comment ça s'appelle, en Customize, et avec Customize et 2-3 Helm. Mais moi, ça me paraît pas déconnant, en plus de du GitOps, entre guillemets, qui va pool mes ressources, d'avoir une CI GitLab qui va me faire un audit et qui va m'envoyer, je sais pas, tous les mois un rapport et me dire, vous avez tous ces chemins d'API qui vont être dépréciés dans telle version, il faudra les prendre en compte. Et en vrai, si on est bien, maintenant on est bien outillé, si on est un minimum organisé, ça prend pas si longtemps d'upgrade les versions, sauf quand il y a vraiment un gros truc qui change, mais ça se calme quand même depuis quelques années. Il y a beaucoup d'ajouts, mais il y a beaucoup moins de choses qui changent dans le fond, des ajouts, des changements de passe, mais il y a beaucoup de breaking change au sens propre du terme. Donc je pense que c'est une charge qui est tout à fait gérable en réalité. Moi, ce qui me semble, c'est CubeAudit où on peut faire ce que je disais, des rapports ou des choses comme ça. Mais pour moi, il faut d'abord réduire ses douleurs. Après, s'il y a besoin d'une LTS, pourquoi pas, pour des cas spécifiques auxquels je n'ai pas pensé. Mais pour moi, ça doit passer par une distribution. C'est pas le rôle de Kubernetes en soi de commencer à gérer des LTS. Eux, leur but, c'est de développer une solution, de la faire évoluer et de s'assurer de la pérennité du truc au niveau développement.
Alors toi, tu fais partie des gens qui prônent une distribution avec une LTS et pas l'upstream comme cube.
Ouais, c'est ça. Mais après, c'est plus dans le sens où tout le monde est libre. Si quelqu'un veut faire une LTS parce qu'il a des besoins de certification, comme René le disait, ou sur un environnement un peu très spécifique, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça rentre dans la philosophie du produit, parce que j'ai très peur des effets néfastes.
Vous voulez réagir, Erwan et René?
Ah, moi je pense que je suis aligné plus ou moins avec ce que dit Namir, donc voilà. Après, même si je vois le côté, par exemple, de faire ce genre de choses, équivalent d'LTS, etc., de gérer un produit qui fiche des versions, c'est un gros boulot et puis un gros casse-tête par moment. Mais justement, c'est le boulot des distributions. Voilà. Même c'est pas super rigolo parfois.
Mais je répète encore une fois, je suis chiant là-dessus. Pour moi, les LTS, c'est bien, mais ça a trop tendance aujourd'hui à être une excuse et surtout à cacher les problèmes d'upgrade. Et ça, sur tous les produits.
Oui, au final, je suis totalement d'accord avec cette conclusion.
Moi, j'aimerais bien avoir une LTS en plus d'une mise à jour facile. Mais j'avoue que en effet, comme le dit Damir, je pense que c'est plus le rôle d'une distribution tierce d'avoir une LTS un peu plus pro que Kubernetes, qui est un produit qui évolue énormément. Même si il commence à être à atteindre une certaine maturité, parce que ça fait plus de 8 ans maintenant qu'il est là, donc 9 ans même.
D'après ce que c'est bien mature maintenant.
Puis c'est utilisé un peu de partout. Donc, on n'a pas fini d'en discuter. Bon. Si toi, tu débutes dans le DevOps, tu sais pas encore ce qu'est Kubernetes, tu peux aller voir les autres podcasts qu'on a fait sur le sujet. Mais si tu veux te forger une culture DevOps pour justement savoir pourquoi est-ce que les devs et les ops doivent se rapprocher et coopérer ensemble, justement, j'ai créé une formation pour toi et elle s'appelle DevOps Mindset. DevOps Mindset, c'est une formation dont le premier lien est en description. Et si tu écoutes ce podcast au moment de Noël, parce qu'il va sortir à peu près à ce moment-là, et que tu es inscrit à la newsletter, je t'ai envoyé un code de réduction énorme sur cette formation. Donc, si tu veux en profiter, vas-y. On va passer au moment que tout le monde attend, les outils. Et Damir va commencer par parler d'un outil qu'on avait brièvement abordé dans notre podcast sur les secrets.
Oui, on a rapidement parlé, mais je ne l'ai pas retrouvé dans la liste des outils sur le forum, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, hein, le forum, dans lequel on a un post avec tous les outils. Donc, je vais reparler de SOPS. Alors, pourquoi j'en reparle, pour être honnête? Parce que j'ai fait un article dessus et du coup, ça m'a donné l'occasion de le retester un peu, surtout de le voir dans la vraie vie, ce que ça donnait. SOPS était un peu obscur pour moi et je me rappelle plus trop si on est des gens, on avait de l'expérience dans le podcast qu'on avait fait, pour être honnête. Mais globalement, ça me paraissait un peu étrange comme placement. Donc, je l'ai testé. J'ai aussi vu comment ça marchait dans la réalité, c'est-à-dire dans les situations du quotidien, donc avec du Terraform, avec de l'Ansible. Donc, toutes ces choses, en fait, qui, moi, m'intéressent, en fait, au quotidien, parce que bah, gérer des secrets, c'est bien marrant, mais moi, ce que je veux faire, c'est récupérer mes secrets dans mon Ansible, les pousser avec mon Terraform, etc. Donc, j'ai testé ça. C'est quand même un outil que je trouve très sympa et très cool dans l'idée. Faut vraiment le voir comme un outil... un peu couteau suisse du secret, qui est très simple de conception, qui est très efficace, mais qui va vous demander des fois de réfléchir un peu. Ça va pas être quelque chose qui est intégré tout le temps, out of box, partout. Donc ça, c'est peut-être un peu le truc où il faut prendre la gymnastique. Mais c'est quelque chose qui est tellement simple que c'est super plaisant. Et ça peut s'intégrer dans beaucoup de choses, avec un peu d'effort. Le principe est très simple. Vous allez vous connecter à un KMS, donc un gestionnaire de clés. Ça peut être du HashiCorp Vault, ça peut être de la WSIAM, mais ça peut aussi être des choses décentralisées, comme du Edge, qui est un système de clés asymétrique, ou du PGP. D'ailleurs, Edge, c'est vraiment génial. Moi, j'aimerais bien sortir de PGP pour du Edge, pour le coup, pour certains besoins. Et du coup, cet outil-là, il va reposer sur un de ses backends, donc c'est pas lui qui va le gérer, il va juste reposer dessus, pour chiffrer des fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas vous chiffrer tout le fichier, il va juste vous chiffrer les champs de valeurs et vous mettre un metadata avec les informations. Donc, il va pas créer de base de données ou quelque chose. C'est totalement décentralisé. Et pour moi, ça, c'est la force du produit. C'est géré par les gens de chez Mozilla. Donc, ça, c'est quand même assez cool. On peut leur faire plutôt confiance chez Mozilla, je pense. En tout cas, moi, personnellement, je leur fais confiance. Et c'est open source, mais j'ai un doute si c'est libre pour le coup. Je me rappelle plus la licence. En tout cas, je vous conseille de le tester. Vous pouvez chiffrer des fichiers YAML, du JSON. Vous pouvez chiffrer plein de choses. Ça marche bien, c'est rapide, c'est décentralisé, c'est gratuit. Pour moi, c'est une bonne solution, surtout si vous avez du GitCrypt ou des choses comme ça un peu lourdes et un peu pas optimales. Ça peut être une bonne première step si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur un système, on va dire, plus centralisé, qui a l'avantage d'avoir des logs d'audit et des choses comme ça, ce que n'a pas par contre SOPS. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille en tout cas de mon côté. Et si jamais vous voulez plus d'infos, on mettra dans la description le lien du GitHub de SOPS, qui contient aussi une partie de la doc, et aussi mon article de blog sur lequel je vous donne des exemples d'utilisation.
Eh ben cool, merci. Pour info, c'est une Mozilla Public Licence 2, donc c'est une licence libre. Alors c'est bien que t'en reparles, parce que à l'époque, justement, dans le podcast, alors on n'en a jamais parlé dans les outils d'ActuDevOps, mais on en a parlé dans le podcast sur la gestion des secrets d'infrastructure. En fait, à l'époque, justement, on s'était aperçu que le projet était figé, il bougeait pas, et c'est vrai qu'il s'est relancé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, j'ai vu ça, et je pense que c'est pour ça que peut-être tu t'es réintéressé au projet, et c'est bien que le projet soit à nouveau vivace, parce que nous on va pouvoir le tester et voir si on y passe dessus, parce qu'aujourd'hui on utilise pas de solution de chiffrement, pas de solution de gestion des secrets centralisée, on est trop petit, on utilise encore Ansible Vault qui marche très bien, mais c'est vrai que quand on veut partager des secrets entre Ansible et Terraform et autres, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que SOPS sera une solution, et notamment sur ce côté, il chiffre pas l'intégralité de ton fichier, mais juste les valeurs. Même si c'est possible de le faire avec Ansible Vault, mais ça demande un petit peu de travail, puisqu'il faut chiffrer chaque ligne de texte avec la ligne de commande, et ça commence à être lourd parfois. Donc merci de rappeler SOPS à notre chère auditrice et auditeur. Vous voulez intervenir, Erwan et René? Non, bon ben ok. René, je t'en prie. À toi l'honneur.
Alors, le petit outil, ou la suite d'outils en l'occurrence, donc c'est quelque chose qui s'appelle IT Tools. pardon. C'est des outils plus ou moins web qui sont pratiques. Souvent on a des choses à faire dans nos métiers, donc des conversions de JSON vers YAML, des conversions de date, etc. Et donc, bah, c'est un site qui, avec pas mal d'outils pour se faciliter la vie et faire ce genre de choses. Voilà, et rien de plus à dire.
Moi, je trouve ça hyper pratique parce que je passe, enfin, j'ai vu quelques outils qui étaient proposés dans ce truc-là et souvent, il y a pour pas mal de trucs comme, enfin, pour les UID ou des choses comme ça, à chaque fois, je cherche sur Google, je prends le premier lien et je me débrouille avec ça. Bah, là, j'aurais pu à chercher avec Google, tout est dedans et en plus, c'est pas mal, on peut mettre en favori les trucs qui nous intéressent et tout. Donc, c'est effectivement, c'est pas grand chose, mais c'est pratique.
Oui, il faudra que je regarde un peu exactement ce qu'il y a, parce que dans le même genre d'outils, alors, bah, du coup, je mettrai aussi en description, j'utilise un outil que je self-host qui est CyberChef, qui est un couteau suisse qui permet globalement plus sur la partie décodage, encodage, data analyse, etc., de faire des choses rapidement, par exemple d'encoder ou décoder du PAS64, même si ça en ligne de commande, ça se fait très vite aussi. Mais surtout bah, tout ce qui est token quand on débug de l'OpenID ou des choses comme ça, ça permet de le faire en ligne, donc c'est vachement cool aussi dans comme tool, donc je verrai si ça se complète bien ou si même ça remplace du coup CyberChef.
Ben moi je vais aller explorer avec impatience parce que en effet il y a pas mal de choses et tu as comment dire, tu as toute ma curiosité, tu l'as éveillé en tout cas avec tout ça.
Il y a pas mal de choses un peu aussi côté réseau, gérer des, enfin, faire des MAC adresses, des conversions de masques, des choses pas mal. Donc, des choses qui souvent, on a besoin d'un petit truc pour le faire et du coup, c'est assez pratique.
Cool. Merci. Damir, tu as un autre outil à nous présenter.
Oui. Je viens de voir que sur la T-Tool, il y a des converteurs de dates. Ça, par contre, ça m'intéresse pour le coup. C'est toujours le truc un peu chiant. Moi, je vais vous parler de MetalLB. Alors, pour le coup, c'est un outil qui est assez connu, mais c'est vrai que je crois qu'on n'en a pas parlé non plus, et c'est à part de cubes. Donc, comme ça, on reste dans la thématique tout à l'heure. Si vous suivez bien, ça fait un petit fil rouge. Bah, c'est très simple. Vous avez, je pense que pas mal d'auditeurs ont déjà fait du cube, mais si vous en avez pas fait, généralement, quand vous créez un cube managé, pour avoir, du coup, une entrée dans votre cube, parce qu'on évite de passer par des nodes ports et de faire du mononode ou des choses comme ça. On fait les choses proprement, on met un load balancer, et pour ça, on crée un service de type load balancer qui va créer en fait un load balancer manager en général chez notre fournisseur favori, que ce soit OVH, AWS, GCP ou whatever. Donc c'est beau, c'est magnifique, ça marche très bien, c'est vraiment magique. Par contre, si on n'est pas chez un cloud provider, comme on fait, on redéveloppe sa propre couche. Eh ben non, il existe un soft qui s'appelle MetalLB qui permet de créer en fait son load balancer directement dans Kubernetes sur du bare metal. Et ça, c'est plutôt cool comme idée. Et ça fonctionne bien. Et ça vous permet d'avoir on-prem des choses plutôt propres et efficaces. Hein, et ça évite de faire des choses un peu dégueulasses comme des sagouins. Donc moi, j'aime beaucoup.
Alors attends que je comprenne bien, tu mets MetalLB dans ton Kubernetes, tu dois lui renseigner ton ou tes serveurs de load balancer, lui il s'occupe de les configurer pour toi et à chaque fois que tu ajoutes des nœuds dans ton agrégat, oups, il va changer la conf, c'est ça?
Alors il y a plusieurs modes de fonctionnement, principalement il va reposer sur du BGP. Donc là ça va faire peur à beaucoup de gens, mais il va avec du BGP, il va du coup faire de la communication pour annoncer les nouvelles IP, etc.
Mais ça fait ça repose sur le service Discovery pour aller configurer ton load balancer. C'était ça l'objet de ma question. C'est du coup t'as pas besoin parce que je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent un achat proxy ou autre et à chaque fois qu'ils rajoutent des nœuds, bah ils vont modifier la conf quoi.
Ah oui non, bah là justement le but c'est de ne plus avoir à faire ça.
Ok. Ah bah c'est super cool comme outil.
Mais l'achat proxy est chiant pour ça. Je suis d'accord. Je le fais aussi sur certains cas parce que j'ai pas le choix. Et je suis triste et malheureux.
Erwan, René, ça vous évoque quelque chose, MetalLB? Ça fait briller, ça fait afficher des petites étoiles dans vos yeux?
Alors moi, je travaille pas trop sur du cube en ce moment, mais effectivement, je lisais le why est très explicite de leur site. On comprend vite la peine qu'ils veulent résoudre. Et effectivement, si c'est aussi bien implémenté que ce que Damien vient d'évoquer, c'est assez séduisant parce que ça retire pas mal de peine. Non, bon, franchement, enfin, tous les outils qui vont dans ce sens-là, moi je dis à chaque fois chapeau aux mecs qui prennent le temps de développer des trucs pour ça, c'est top quoi. Ça bon, faciliter l'accès à toutes ces problématiques, fait que l'adoption des solutions est plus rapide, etc. Donc non, franchement, top.
Il n'y a pas que du BGP. Un BGP, c'est la solution entre guillemets la plus propre, mais il y a d'autres solutions pour le faire fonctionner si vous avez peur du réseau. J'ai pas encore tout testé pour le coup, mais ça me semble vraiment un produit intéressant si vous voulez faire de l'on-prem.
Eh ben, moi, je vais vous parler d'un petit outil. On a parlé de GitHub Copilot. Eh ben, moi, je vais vous parler de Tabi, ou Tabai, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais le prononcer à l'anglaise, Tabai. Tabai, c'est une IA, en fait, une assistante de développement qu'on peut auto-héberger. C'est donc une alternative open source et on-prem à GitHub Copilot. Puisqu'elle fournit en plus de tout ça une interface Open API qu'on peut intégrer facilement à une infrastructure ou à des IDE ou un cloud IDE, et ça prend en charge en plus pas mal de GPU grand public, et ça va faire plaisir à René, c'est écrit en Rust. L'avantage d'avoir un tel outil en auto-hébergement, ça permet pour des entreprises d'une certaine taille par exemple d'avoir leur propre assistant IA de code chez eux et de ne pas voir sortir leur code qui est généré par IA et aller chez Microsoft par exemple ou d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres fournisseurs. Ça peut être une alternative, et moi je m'intéresse très fortement à ce genre d'outils qui sont complètement libres, justement pour les intégrer et les auto-héberger, parce que je trouve que c'est le cœur d'une société quand on travaille sur du code. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, de ce genre d'outils.
Bah ça répond à une problématique qui est que certaines sociétés, au niveau privacy, certaines sociétés n'utilisent pas Copilot ou ce genre de choses pour ne pas envoyer de data. C'est pas autorisé, donc là ils peuvent faire leur équivalent in-house, donc c'est pas mal.
Ça supporte déjà des IDE.
J'ai l'impression, oui, parce qu'il y a des plugins, notamment pour pas mal d'IDE. Et notamment, j'avais vu qu'il y avait VS Code.
Oui, effectivement, il y avait VS Code.
Mais est-ce qu'il y a NeoVim ? C'est ça la vraie question.
Je te laisse aller regarder. Oui, il y a Vim et NeoVim. Il y a aussi IntelliJ Platform. Donc, il y a pas mal de choses à faire, en fait, avec ce genre d'outils.
Pour l'instant, moi, je suis encore un peu perplexe sur ce type d'outil. J'utilise de l'IA quasiment tous les jours. J'utilise moins dans mon IDE pour une raison très simple. C'est qu'il y a des problèmes de privacy, de ça, qui sont quand même pour l'instant encore pas réglés facilement. Donc, ça peut être une alternative. Mais surtout, je trouve que quand on développe régulièrement avec le même langage, qu'on a ses LSP qui sont bien configurés, quand on a des snippets, etc., qui sont propres, il n'y a pas forcément énormément de gains, entre guillemets. Moi, c'est pas aussi fou, entre guillemets, que ce qu'on nous vend. J'ai l'impression, après, ça demande de configurer ses LSP, ça demande de configurer des snippets, mais ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et peut-être que les gens n'étaient pas habitués, donc du coup, ils voient plus d'intérêt. Ça marche, hein, mais les 2-3 fois où j'ai vu des tests, ou en tout cas où j'ai essayé de tester, j'étais assez... C'est bien, ça avance, mais c'est pas la révolution non plus pour l'instant. Surtout que dès qu'on demande des situations de code un peu précises, il fait des choses un peu crado ou il va pas respecter vos règles de codage, j'ai plus le nom.
Convention.
C'est la fatigue.
Convention.
Voilà, merci, je trouve plus le nom. Vos conventions de codage et autres. J'ai pas encore l'effet waouh, on va dire, mais c'est intéressant de voir qu'on a de plus en plus d'alternatives. On va dire non centralisé, ou en tout cas avec un meilleur contrôle sur les data, et c'est une bonne chose, je pense.
Oui, alors moi j'utilise aussi pas mal d'IA. On a notamment pris un abonnement à GPT+. Par contre, on n'envoie pas de données sensibles à GPT. On fait que des questions globales. Moi, par exemple, j'utilise pour des trucs publics, pour des documentations, des articles ou ce genre de choses, ou pour m'aider à faire des emails et ce genre de trucs. Par contre, j'ai un cas d'usage moi qui m'intéresserait. Moi, j'utilise pas d'IA pour coder, et j'ai un cas d'usage qui me semble intéressant, c'est pour l'écriture des tests. J'en fais encore assez peu par manque de temps et de connaissances et de compétences, et je me demande si ce genre d'outil peut pas m'aider justement à écrire des tests tout en me laissant à moi le loisir d'écrire le code. Tu vois, le code d'infrastructure, par contre, lui, il me générerait des tests parce que je lui dirais, ben voilà, je veux que tel truc fasse ça, que tel truc fasse ça, écris-moi des tests, et puis j'irai peaufiner les tests qu'il m'écrirait. Je sais pas ce que vous en pensez là-dedans. Parce que, en tout cas, c'est dans ce que tu as dit, Damir, ça m'évoque ça. Ça m'évoque l'écriture des tests, qui est souvent rébarbatif et qui est souvent laissé de côté à cause de ça.
Ouais, après en fait le vrai problématique, c'est de voir s'il arrive à te générer des tests qui soient cohérents, utiles et pertinents sans que tu fasses trop d'efforts. Moi le problème, c'est que c'est cool quand il te génère des structures de choses et tout, mais tu peux déjà le faire avec d'autres solutions, et ce qui est rempli dedans, tu dois repasser derrière, ou pire, s'il y a des gens qui comprennent pas du tout ce qu'ils font et qui laissent ça comme ça, ça m'inquiète un peu plus, on va dire. Mais moi j'utilise pour du code, ça dépend. Des fois, j'utilise quand j'ai besoin de générer, des conditions, des choses un peu rébarbatives ou une structure vraiment précise. Bah, je vais des fois lui demander de faire ça. Et sinon, moi, j'utilise plus comme un canard, en fait. Moi, ChatGPT, c'est devenu mon canard au quotidien. C'est la personne que je vais voir, et justement pour pas envoyer de données sensibles, d'abord, je retourne la question dans ma tête et je me fais comment je lui explique mon problème, mon contexte et ce que je dois lui demander sans lui donner aucune info privée entre guillemets ou dangereuse. Et au final, rien que faire cet exercice, comme le système du canard quand t'expliques à quelqu'un, bah ça m'aide en fait. Donc c'est plus un moyen de matériel de faire ça. Et autrement, là où je m'en sers énormément, c'est aussi pour des fois quand j'ai un nouveau produit, je cherche un truc dans la doc, bah je lui passe le lien de la doc, je fais vas-y, lis-moi la doc et quelle partie parle de ça. Et du coup, il me donne ma réponse. En même temps, il me dit, c'est dans telle partie de la doc. Et je fais, bah, vas-y, hein, ça, c'est bien. Et ça, quand on connaît pas un produit ou quand on cherche vraiment un truc précis dans une doc qui est tentaculaire, c'est cool.
Oui, j'avoue. Ça, c'est vraiment un usage qui est super bien.
Ou traduire des schémas quand on a perdu le schéma XML de son schéma DrawIO ou n'importe quoi. On lui file le DrawIO, on dit, tiens, génère. Bon, faut pas que le schéma soit sensible, mais pour les schémas de communication et trucs comme ça, ça marche bien de lui demander de régénérer derrière le XML.
Après, il y a quand même parfois lors du code, il y a quand même parfois du gain de temps sur certaines choses, comme tu as une structure un peu. C'est vrai qu'il propose. Tu peux gagner du temps, surtout si la syntaxe elle est un peu relou. Ça dépend des cas.
Bref, en tout cas, maintenant, on a une alternative libre et auto-hébergeable. Ça, c'est bien. C'est la bonne nouvelle du jour. Merci encore une fois à vous trois pour votre disponibilité et votre temps. Moi, je dis merci à notre chère auditrice ou auditeur de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, un épisode fort long, puisqu'on est à 1h30, 1h32 au compteur. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Et cette fois-ci, je vais surprendre René. Et c'est René qui va donner le premier mot de la fin.
Oh, c'est pas ça. C'est dur, ça. Eh ben, j'espère que l'épisode vous intéressera. Ou vous a intéressé si vous venez de l'écouter. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir nous dire justement si la complétion de code avec vous trouvez ça vraiment efficace ou pas. Je serais assez intéressé pour savoir. Voilà.
Il faut faire passer la parole. Allez, Erwan.
Pardon, je vais la passer à Damir.
Eh ben allez, non, mais j'étais content de vous retrouver. Moi, ça, j'ai fait une petite pause là de quelques mois, le temps de gérer un déménagement de mon côté. Donc, c'était cool de pouvoir discuter ensemble. J'espère aussi que l'épisode vous a plu. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si le podcast est diffusé un peu avant. Et une bonne année 2024 en avance.
Eh ben, moi j'allais dire aussi la même chose. Ça fait un peu la team OG là du podcast qui est pour cette session. Et c'est cool, toujours un plaisir de partager. J'espère que ça sera ressenti comme tel par les auditeurs.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.